I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il y a beaucoup de gens qui pensent que toutes les travailleuses du sexe et tous les travailleurs du sexe sont soit, je vais prendre les deux cas extrêmes, soit la traditionnelle qui bosse dans le bois de Boulogne, qui ne correspond pas au standard de beauté, soit l'escorte magnifique dans Pretty Woman. Et en fait, non. L'industrie du travail du sexe, c'est genre un truc qui est incroyable parce que t'as une diversité qui est géniale et ça reflète bien en fait que les personnes qui vont nous démarcher font pas partie de la société, on va dire, normée, parce que quand, à partir du moment où tu tournes vers le travail du sexe, t'es, même en tant que client, t'es pas bien perçu. Enfin, on va dire que chez les hommes, c'est plus accepté, mais ça reste quand même quelque chose qui peut marginaliser. Et je pense que ces personnes-là vont chercher des femmes, des hommes qui vont pouvoir être dans leur conception de ce qui est beau, belle. Et ça change totalement de ce qu'on va exposer tout le temps à la télé, genre des femmes hyper minces, avec des beaux très fins. Enfin non, c'est vraiment un truc qui est tellement divers.
Extimité, le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier.
Alors, je m'appelle... J'ai 20 ans et je suis travailleur du sexe et étudiant. Si on remonte au départ, ma mère, elle a une place très importante dans ma vie. Elle est fille d'un immigré algérien et mon père est, un peu moins important dans ma vie, quoique dans un autre sens, est fils d'immigrés italiens. Et donc nous, on a été à Saint-Ouen à l'origine, dans le 93, pendant 4 ans. Ensuite, on a déménagé en banlieue parisienne vers les Yvelines. Donc là, c'était, comment dire ça, bougie life. On avait plein de moyens, c'était génial. Mon père avait réussi son rêve d'être un self-made man. Et donc, il voulait absolument avoir sa petite maison dans la banlieue. Donc, on y a été. Ça s'est très mal passé. Ma mère était toujours accrochée à Saint-Ouen. Donc, il y a eu une sorte de tension. Ça fait un divorce. Et donc, moi, j'ai choisi d'aller avec... l'argent, j'étais déjà vénal, donc j'ai suivi mon père, et lui il est parti en Normandie, et là j'avais 14 ans, et donc à ce moment-là ça commençait à cogiter dans ma tête sur tout ce qui était mon identité de genre, mon orientation sexuelle, et je me suis rendu compte que mon père n'était peut-être pas la personne la plus ouverte là-dessus, et donc j'ai commencé à me dire que l'argent est important, mais le social on va dire, et... le pathos qu'il n'avait pas pour moi, c'était quelque chose qui me manquait beaucoup. Et donc, j'ai passé 3-4 ans à me torturer, genre me poser toutes ces questions, me dire « mais c'est pas normal, je suis pas normal, comment ça va se passer, enfin, qu'est-ce que je suis, comment je fais pour vivre ici ?» Et après ça, du coup, c'était genre quand j'avais 18 ans, je suis retourné à Paris pour... retourner avec ma mère. Et depuis, je suis avec elle à Saint-Ouen.
Est-ce que t'es fils unique ?
On est 3.
D'accord. Et tu parlais de tes questionnements de genre, de sexualité à tes frères et sœurs ou à l'école avec tes amis ou des choses comme ça ?
C'était hyper compliqué à aborder comme sujet parce que je faisais ce qu'on appelle de l'homophobie internalisée quand j'étais genre petit, de mes 8 ans jusqu'à mes 12 ans. Je passais tout mon temps avec ma sœur, je jouais au Polly Pocket avec elle. Et mon père ne supportait pas ça, et je comprenais pas, en fait, je me disais, mais pourquoi j'ai pas le droit de jouer au Polly Pocket, même si en même temps je savais que c'était pas pour les garçons aux yeux de mon père, et même aux yeux de beaucoup d'autres personnes, et du coup j'avais vraiment du mal à me questionner, en fait, parce que je m'en empêchais moi-même, et donc suite à ça, j'ai fait une tentative de suicide, et en fait, j'ai essayé de me suicider, parce que je comprenais pas ce que je comprenais pas, genre c'est un truc qui est hyper complexe à expliquer, genre, j'étais un putain de gamin, et en fait, le fait est que j'avais aucune représentation, je savais pas du tout à quoi m'identifier, enfin, tu sais, quand t'es tout petit et que tu te dis, merde, mais en fait, j'aime bien ce mec, mais genre, pas comme mes autres amis l'aiment, enfin, c'est pas normal, je me le disais à moi-même, je me disais, mais t'es pas normal, en fait, et quand j'en parlais avec, enfin avec mes amis. Après, j'étais obligé de dire non, non, c'est une blague, parce que je voyais qu'il y avait une sorte d'homophobie bien présente, on va dire. Et ça, c'était jusqu'à mes 12-13 ans. Donc après, on a été en Normandie, et là-bas, il y a eu mon coming out, hein, un peu forcé, on va dire. J'avais du coup un de mes meilleurs amis qui s'appelait Tom, savait que j'étais bi, parce que j'ai passé par la case où je me disais bi, parce que c'était encore too much d'être gay, même pour moi. Je me disais, non, je ne peux pas être gay. Donc je lui ai dit que j'étais bi, et il avait une copine, et je lui parlais énormément. Et il pensait que je voulais sortir avec sa copine, ce qui n'était pas le cas. Et du coup, après ça, il m'a menacé de dire à tout le lycée que j'étais gay, enfin que j'étais bi. Du coup, je lui ai dit, mais écoute, chaton, ne me menace pas si tu vas pas appliquer tes menaces derrière, parce que moi, je vais pas rigoler avec toi. Et il m'a dit, ouais, on verra. Du coup, il n'a rien fait, mais le lendemain, il se trouve que c'était le 1er avril, et moi, j'avais pas envie de laisser passer cet acte comme impuni. Donc, j'ai été au marché acheter un poisson, et je suis revenu au lycée avec une de mes copines qui s'appelait Orlan, que j'adore. Et je lui ai dit, chaton, filme, ça va être très drôle. Donc, elle a filmé, je suis allé voir Tom, et je lui ai dit, hé, hey, Tom! Et je l'ai frappé avec le maquereau. Et du coup, c'était trop, trop, trop marrant. J'étais trop fier de ma connerie. On a posté ça sur les réseaux sociaux. C'était genre viral. Et tout le monde était là, genre, ha, trop drôle. Et il y avait aussi, du coup, Tom qui l'a plutôt mal pris.
Ah bon? Cette morue l'a mal pris.
Oui! Et du coup, il a été voir la directrice et il a porté plainte contre moi aussi. Et donc, la directrice m'a convoqué pour expliquer mon acte. Donc, j'étais acheté. D'accord. Sauf qu'elle a aussi convoqué mes parents. Donc, mon père allait apprendre par la directrice que j'étais bi. Et donc, j'étais là, j'étais, ah, d'accord, ça va très bien se passer. Oui, je me tire une balle quand, en fait. Et donc, ma mère, je lui ai envoyé un SMS avant. Je me suis dit, bon, je lui dis, maman, je suis bi. Elle m'a dit, ok. Je me suis dit, ok, donc là, en fait, j'ai attendu genre 15-16 ans de ma vie pour que tu me lâches un ok, comme ça, je
Ok,
suis.
point.
Ouais! Genre, honey. C'est quoi ce bordel? Donc j'étais super content et soulagé, elle a pris ma défense, mais j'ai bien compris que mon père, lui, c'était pas possible. Donc la directrice a fait l'entretien, je me suis pris une excision de 3 jours alors que bah je faisais que répondre à des actes homophobes, quoi. Il m'avait fait chanter, c'est pas normal. Bon, peut-être que ma réaction était un peu
Disproportionnée.
disproportionnée, mais je suis une drama queen, il faut comprendre. Et donc après ça. Je sais pas si je dois le dire dans le record, mais je me suis encore plus embrouillé avec Tom et je lui ai cassé la gueule. Donc j'étais plutôt content de moi, mais bah, lui il était moins. Et son père est venu me menacer de me boxer, sauf que en fait le mec était champion de boxe de France à une époque, donc j'ai pris très peur et je suis parti. Je suis parti. Donc j'ai fui. Quelques temps après cette altercation, mon père a cherché un prétexte pour me virer de chez moi. En gros, bah, j'étais un gros usager de drogue à l'époque, j'adorais me défoncer fumant du shit et il se trouve que j'ai commandé de l'herbe et c'est arrivé dans la boîte aux lettres, mon père l'a trouvé et il m'a dit bon écoute tu vas dégager, j'étais bah comment ça tu peux pas me virer en fait, j'étais encore dans ma vie, j'allais rester dans ma maison tranquillement et lui il me dit non tu dégages, non je ne veux pas dégager, je veux rester et il me dit non mais moi je veux pas de quelqu'un comme toi chez moi, donc c'était pas juste un fumeur de shit, je savais très bien que ça allait au-delà de ça. Et on en est venu aux mains, genre il a commencé à m'étrangler. Là, Marie, ma sœur, je t'aime. Elle a pris un balai, elle lui a tapé dessus pour qu'il me lâche. Donc j'ai couru au commissariat. Sauf que les flics m'ont pas pris au sérieux. Ils m'ont dit non, mais vous exagérez toujours, c'est pas vrai, votre père peut pas faire ça, machin. J'étais, mais enfin, je viens ici parce qu'il y a eu atteinte sur ma personne, enfin, à
C'était en
l'aide.
danger, ouais.
Ouais, et mon père savait très bien que j'y allais, du coup il est venu. Et ils m'ont remis, plutôt elles, parce que c'était des femmes au commissariat, qui m'ont remis dans les mains de mon père et qui lui ont dit, ah oh, mais de toute façon, c'est une folle. J'étais acheté. Oh, sérieusement. Et du coup, on est reparti, j'étais là. D'accord, très bien. Donc je suis rentré chez moi, j'ai fait ma valise et puis je suis parti. Donc j'avais pris des pâtes, des boîtes de conserve, une marmite. Je ne savais même pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin, comment veux-tu bouffer des pâtes? Donc, je suis parti et pendant une semaine j'étais sur la plage à Urville, c'est en Normandie, et une amie à moi m'avait prêté une tente. Donc j'y vais sur une tente pendant une semaine, c'était plutôt drôle en fait, j'ai pas du tout vécu comme beaucoup de personnes n'ont pu le vivre, on va dire, la mise à la rue. Et donc suite à ça, j'ai fait chanter mon père pour revenir dans le foyer. Et maintenant, on est en mauvais termes.
Et quand tu vivais donc à la plage, t'avais quel âge? T'étais toujours scolarisé ou pas?
Bah, c'était sur la période de fin des cours, du coup j'étais plus vraiment scolarisé, on va dire, même si j'avais toujours une année à reprendre l'année d'après. Et j'avais 16 ans.
Et t'as pas envisagé à ce moment-là de retourner chez ta mère?
Je l'ai envisagé, mais en même temps je savais que là, vu que je m'étais outé, on va dire, et que j'avais pas du tout envie d'aller dans un collège public de Saint-Ouen, je me suis dit non, c'est pas possible, parce que quand je suis à Saint-Ouen, je me fais tout le temps insulter par tous les jeunes de mon âge, et je me dis, j'ai pas envie de m'exposer à ça, je préfère vivre pas dehors, ou essayer de vivre dans un foyer hyper hostile, et être plus libre, on va dire. Enfin, je sais pas comment expliquer ça au niveau de mon expression personnelle.
Oui, être toi-même. Tu penses que ça se voyait que t'étais queer?
Ouais, ça s'est tout de suite vu et surtout entendu. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais j'ai toujours eu ce complexe au niveau de ma voix. On me dit que je suis hyper maniéré. Là, ça se voit pas, mais je fais des signes avec mes mains. Et je suis toujours en train de parler ou la tonalité de ma voix fait que les gens me grillent. Genre, j'ai pas de passing hétéro, même si dans mon monde idéal, on devrait pas juger quelqu'un ou pouvoir définir la sexualité de quelqu'un en fonction de son apparence ou de sa voix. Mais le fait est qu'aujourd'hui, enfin, et puis même avant, ça a toujours été transparent, même de la façon dont je marchais ou de que je m'habillais.
I feel you, girl. et donc, quand tu retournes avec ta mère, t'as 17 ans, c'est ça?
Ouais.
Comment ça se passe, ce retour en région parisienne?
Bah, ça se passe plutôt bien. Elle avait quand même le mort que j'ai choisi le fric plutôt que de rester avec elle. Donc, elle me l'a fait sentir, je l'ai compris. Mais je me suis dit, putain, j'avais 12 ans, m'en veux pas trop. Mais je m'auto-flagelle tout seul, tout le temps. Et puis, au niveau de l'expression personnelle, je pense que ça s'est beaucoup mieux passé avec elle. Elle a toujours été hyper ouverte avec moi sur ma sexualité, sur mon identité de genre. Enfin, ça a toujours été un putain de support et je pense que j'ai tellement de chance de l'avoir avec moi parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui n'ont pas eu ce luxe, on va dire.
Et t'étais aussi beaucoup plus près de Paris, j'imagine. Est-ce que c'était une liberté supplémentaire?
En fait, Paris, c'est vraiment à double tranchant parce que certes, t'as beaucoup de monde, du coup ça dilue un peu les pièces de merde, mais t'as aussi beaucoup de bonnes personnes, ce qui fait que tu te dis, ah mais en fait, je peux être qui je veux, je suis une princesse aujourd'hui, donc je suis une princesse. Il y a des gens que ça va faire sourire, et il y en a d'autres que ça va faire avoir des réactions hyper hostiles envers toi. On m'a craché dessus, on m'a jeté des bouteilles dessus, on m'a frappé dessus, alors que ça m'était nettement moins arrivé en proportion quand j'étais en province que dans Paris.
Ok, et est-ce que, je sais pas, sur les réseaux sociaux, sur internet en général, est-ce que tu trouvais un espace pour parler de tes questionnements de genre et de sexualité?
Alors en fait, j'ai toujours été adepte du shitpost, c'est-à-dire que j'écris n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête. Donc ouais, pour moi, les réseaux sociaux, ça a été génial. J'ai trouvé une cuvette sur le monde entier, donc j'y allais, je gerbais tout ce qui me passait par la tête, et je trouvais des gens qui trouvaient des trucs intéressants dans ma gerbe, donc on s'est tous bien entendu, et c'était plutôt génial, et donc ça m'a permis de de trouver d'autres personnes comme moi qui avaient la nausée du monde et on était tous et toutes contentes de se rencontrer à travers cette plateforme.
Et au-delà du coming out en tant que bisexuel, comment est-ce que t'as compris que t'étais plutôt gay?
Alors, comment est-ce que je l'ai compris? Bah, même aujourd'hui, en fait, je continue de me questionner là-dessus parce que je pense pas que ce soit figé, en fait. Je me rends compte que plus le temps passe, plus j'ai des attirances pour des personnes au-delà de leur genre, mais enfin, vraiment en tant qu'être humain, plutôt que en tant que femme, homme ou personne non-binaire. Enfin, c'est juste un coup de foudre, en fait, basiquement, quand je parle vraiment d'amour. En fait, honnêtement, je sais pas du tout dans quelle case me mettre, parce ouais, que j'ai peur que quand je me labellise, après on va me dire « Ah, mais t'étais pas ça avant !»« Non, honey, les choses changent !» Et donc je préfère dire « Bah, je sais pas, que... me mettre dans quelque chose qui pourrait ne pas me correspondre à l'avenir.
Et du coup, c'est quoi ton rapport à la sexualité?
Alors, la sexualité, ça a toujours été quelque chose d'assez débridé pour moi, littéralement. Quand j'ai commencé le sexe homosexuel, bah, je me suis dit que j'en savais rien, en fait. J'ai jamais vu de cours d'éducation sexuelle sur les rapports HSH. Enfin, c'est pas expliqué, je savais pas comment me protéger, je savais même pas à quoi ça ressemblait. Dans ma tête, en fait, quand j'avais 14 ans, pour moi, un rapport homosexuel, c'était tout ce qu'on voit dans le BDSM, c'est-à-dire un mec dans un costume en latex qui va te fouetter. Et je me suis dit, Mais du coup, je pense pas être vraiment gay, moi. Je pense que je suis plutôt bi, genre à moitié, peut-être qu'il portera pas de tenue en latex. Donc ma première, on va dire, idée, ça a été d'aller sur les sites d'annonces parce que je connaissais pas du tout les applications. Donc j'étais là sur mon ordinateur, j'ai posté mon truc et il y a Master 50, c'était quand j'étais en Normandie, qui me fait oui, bonjour, j'aimerais bien vous rencontrer. Il se trouve que c'est un adepte du BDSM. Et je me suis dit, génial! Ouais, et 50 parce que non seulement il habitait en Normandie, mais je pense qu'il devait être pas loin de la cinquantaine. Donc j'arrive chez lui, j'ai 14 piges, il en a 50, je lui dis que j'en ai 18, tout va bien, il le gobe, même si je pense qu'il y avait des petits soupçons de pédophilie derrière, parce que ça se voyait clairement sur mon visage que non, sur mon corps également. Donc j'arrive chez lui, et là, il me fait monter dans son grenier et je vois que c'est genre Fifty Shades of Grey, mais version genre pas vanille, parce que Fifty Shades c'est quand même vanilla, tu vois. Genre là c'était ouf, je vois des godes partout, je vois des fouets, je vois un sling, je me dis, oh, c'est là où je vais m'asseoir moi. Oh.
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un sling?
Un sling en fait c'est une balançoire sexuelle, enfin généralement c'est suspendu en fait, c'est la définition, donc ouais c'est ça. Et du coup, bah. Je suis passé à la casserole, on va dire, et je me suis dit, non, 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 moi je suis pas gay, je suis pas bi non plus, donc j'ai arrêté tout rapport sexuel pendant un an. Ensuite, je me suis dit, oh, mais quand même, le sexe, ça peut être intéressant. Donc, j'ai refait la même chose, mais en me disant, bon, 50 ans, c'était peut-être trop vieux. J'ai profité de vacances en été pour me taper un mec qui était à Nice, alors que j'étais à Saint-Raphaël, donc j'ai pris le train, et j'arrive chez lui, et en fait, il était. Bah, dégueulasse. On n'avait pas échangé de photos ni rien, mais enfin, j'ai toujours eu ce rapport très étrange avec la sexualité, c'est-à-dire que je m'en fous de la gueule qu'il a. Et en fait, des fois, je me dis que quand je vais rencontrer ces personnes, c'est genre plus pour du cul qu'autre chose. Enfin, je sais pas comment dire. Je digresse un peu. Pour en revenir à cette personne, c'est là où je me suis rendu compte que même dans la communauté LGBT, t'avais encore cette sorte de schéma hétéronormatif dans tes positions sexuelles, on va dire. Actif, passif, je savais pas ce que ça voulait dire passif. Du coup, il me dit, t'es passif. Je dis, bah non, moi je suis pas passif, j'ai envie de bouger, tu vois. Donc je suis actif. Donc le mec a 34 ans et il me dit, génial, moi je suis passif. Je dis, bon, d'accord, bah du coup, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Et là, il me dit, bah du coup, tu me prends. J'étais acheté, pardon? Non, moi je veux pas te prendre, je veux que tu me prennes, mais je veux bouger, tu vois. Genre, elle me dit, ah d'accord, mais du coup, moi je suis passif. Et toi, tu es actif. Ça, j'étais. Enfin, ça veut dire quoi ça? Et après, j'ai compris qu'en fait, c'était pas cohérent du tout et que je m'étais encore une fois trompé sur ma perception du sexe gay. Cette histoire s'est mal finie. J'ai fini par dormir par terre parce que j'avais pas du tout envie de faire ce rapport sexuel. J'avais pas envie non plus d'être dans le lit avec cette personne.
Yeah, I know. She's so hot right now. But look out for that one. She'll fuck up your whole life with that little Gucci coochie.
Je suis rentré dans ma petite Normandie. Et là, j'ai commencé à avoir une approche plus classique parce que j'ai rencontré quelqu'un qui était, bah, du coup, gay. C'était très étrange d'ailleurs. La façon de se rencontrer, on était tous les deux dans le placard et on s'est quand même grillé. Donc, je pense que le gaydar existe. Donc, il se trouve qu'on a commencé à parler, etc. On s'est mis ensemble, ça n'a pas marché. Mais on a découvert en même temps Grindr et Hornet. Alors là, c'était le supermarché qui avait ouvert ses portes pour moi. Je suis rentré par les portes automatiques et j'ai pris tout ce qui passait. Je me suis fait prendre par tout ce qui passait. Donc j'avais l'impression que c'était tout un monde qui s'ouvrait à moi. C'était génial. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, le sexe, c'est quelque chose de. Enfin, à mes yeux, qui est hyper, comment dire, classifié. Pour moi, il y a genre trois types de sexe. T'as ton sexe avec un plan cul que tu reverras jamais ou que tu reverras, mais qu'il y a juste du cul, du plaisir charnel. D'après, t'as ton sex friend, c'est-à-dire que. Tu peux, genre, le voir plusieurs fois, parler avec lui ou elle, mais pas trop. Et c'est quand même bien. Genre, c'est l'intermédiaire. Et après, t'as la personne que tu aimes, pour qui t'as des sentiments. Et je pense que, genre, là, c'est une sorte de amplificateur. Quand les deux sont ensemble, genre, le sexe est tellement meilleur, mais c'est tellement rare et dur à trouver. Donc, ouais, je pense que à travers tout cet hypermarché du sexe, j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses sur ma propre sexualité. Et du coup, ça a un peu facilité mon arrivée dans le travail du sexe, on va dire. Parce que via Grindr, justement, c'est là où j'ai eu mon premier client qui m'a envoyé le sigle euro. Pas bonjour, pas salut, c'était euro. Je me suis dit, comment ça, euro? Oui, bien sûr, euro. Et donc, il m'a dit le prix, j'y suis allé, on a fait notre affaire et ensuite il m'a payé. Et donc, j'ai acheté. Mais en fait, c'est.
Interesting.
Ouais, il y a de la monnaie à se faire, tu vois. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à pratiquer de plus en plus. Et après, j'ai fait des recherches sur comment annoncer sur Internet. Et donc, là, j'en suis arrivé à poster mes propres annonces et à faire mes petites photos, à faire mon auto-prospection, savoir combien je valais, entre guillemets, et combien valaient mes services. Et donc, là, ça a été de te remettre en question, de te dire. Ok, donc est-ce que je vaux vraiment les 200 euros par heure que je propose? Et quand t'as des gens qui viennent te voir tous les jours pour te dire bon, excusez-moi, mais je pense que vous devriez faire les prix moins chers quand même. T'es là, tu te dis est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste un mec qui veut gratter? Oh. Et c'est compliqué.
Et ça, justement, cette évaluation tarifaire, c'est comment? C'est par comparaison avec d'autres personnes, d'autres travailleurs du sexe? C'est les clients qui te l'imposent ou...
Bah, je pense qu'il y a un mélange des deux. Et j'aimerais juste préciser que genre, il n'y a aucune légitimité à ce qu'un client te remette en question. Parce que pour moi, c'est la base du travail du sexe, c'est que tu poses un contrat et que la personne peut soit le signer, soit dégager. Il n'y a pas de négociation quand on en arrive à faire des échanges sexuels tarifés. Ça, c'est on va dire mon mantra. Dès que je sens que quelqu'un essaie de négocier, c'est next, il y en a 50 derrière la porte, toi tu ne m'intéresses pas, au revoir, t'as pas les moyens, tu dégages. Et donc ensuite, quand il en vient à l'autoprospection, oh, ça c'est compliqué, genre... Comment, enfin, je pense que ça s'applique à toutes les productions, on va dire. Je pense quand t'es artiste ou quoi, quand tu fais du travail et que tu dis, mais combien il vaut mon dessin? Genre, c'est dur d'évaluer ton propre travail. Alors que dans le travail du sexe, tu te dis, ok, donc, est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis belle aux yeux de la société? Combien je vaux? Combien je pèse? Est-ce qu'ils veulent des grosses? Est-ce qu'ils veulent des gros? Est-ce que, enfin, il y a tout ça qui rentre en compte. Genre, est-ce que ma bite est assez bien pour eux? Est-ce que je me coupe les cheveux? Non, ils vont pas aimer. Est-ce que je me rase les sourcils? Non, ils vont pas aimer. Genre, c'est un peu de pression quand même parce qu'il faut que tu maintiennes une sorte d'apparence pour plaire au client. Et du coup, ce qui est bien là-dedans, même si c'est à double tranchant, c'est que du coup, tu sais que tu plais, mais que, enfin, comment dire ça, bah, tu fais en sorte de plaire. Enfin, même si pour ma part, c'est un peu mon mantra, j'aime allumer le monde entier. C'est toujours genre, j'adore draguer tout le monde. Enfin, quand je dis draguer, c'est pas accoster les gens ou même les regarder, c'est juste. Je pense que je dois toujours être sur mon top, on va dire, tout le temps, parce qu'on sait jamais sur qui je peux tomber ou quoi, et j'aime bien me sentir sexy, j'aime bien me sentir forte, genre c'est important pour moi. Et je pense que le travail du sexe a une grande partie là-dedans pour tout ce qui va être l'estime, on va dire, parce que quand je sais qu'il y a des gens qui sont prêts justement à payer pour mes tarifs, que j'ai auto-évalué, etc., je me dis, quand même, je suis peut-être pas si moche après tout. Enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent que toutes les travailleuses du sexe et tous les travailleurs du sexe sont soit, je prends les deux cas extrêmes, soit la traditionnelle qui bosse dans le bois de Boulogne qui ne correspond pas au standard de beauté, soit l'escorte magnifique dans Pretty Woman. Et en fait, non, l'industrie du travail du sexe, c'est genre un truc qui est incroyable parce que tu as une diversité qui est géniale et ça reflète bien en fait que les personnes qui vont nous démarcher font pas partie de la société, on va dire, normée, parce que quand, à partir du moment où tu tournes vers le travail du sexe, même en tant que client, t'es pas bien perçu. Enfin, on va dire que chez les hommes, c'est plus accepté, mais ça reste quand même quelque chose qui peut marginaliser. Et je pense que ces personnes-là vont chercher des femmes, des hommes qui vont pouvoir être dans leur conception de ce qui est beau, belle. Et ça change totalement de ce qu'on va exposer tout le temps à la télé, genre des femmes hyper minces avec des beaux très fins. Enfin, non, c'est vraiment un truc qui est tellement divers que j'adore. Surtout quand je rencontre des collègues, je me dis, mon Dieu, on est toutes belles, c'est génial.
Et justement, tu as parlé du fait qu'il y ait cette négociation-là de la part des clients. Est-ce que, je sais pas, ça fait combien de temps que tu es TDS?
Ça fait 4 ans.
Ça fait 4 ans. Et la loi qui criminalisait les clientes, elle est passée
en 2016.
En 2016. Et du coup, est-ce que tu as vu un avant-après ?
Alors, l'avant-après, tu le perçois plus, je pense, quand tu es tradie, c'est-à-dire que tu bosses au bois tout le temps. À cette époque-là, je ne le faisais pas. Du coup, je l'ai moins perçu. Mais par contre, au niveau des annonces en ligne, on le perçoit un peu plus, un peu moins, mais on perçoit quand même. Parce qu'il y en a beaucoup qui maintenant me le disent noir sur blanc sur leur écriture. Bonjour. En fait, moi, je suis délinquant et je trouve que vos services sont trop élevés par rapport à ce que j'encours. Parce que genre les amendes, première amende, je crois que c'est 1 350 €. Récidive, c'est 3 750 €. Donc, ça fait un peu cher, mais ça ne justifie pas qu'il y ait une sorte de prise de pouvoir de la part des clients qui maintenant vont même demander des rapports sexuels non protégés. En brandissant la loi, genre « Ah, mon Dieu, mais moi, je suis délinquant, il faut que vous fassiez un effort. Non, ça ne marche pas comme ça. » Enfin, on est tous les deux dans le même bateau, on va faire en sorte que rien ne nous arrive, c'est-à-dire qu'on va aller dans un lieu discret, soit chez toi, soit chez moi, tu vas fermer ta gueule, je vais fermer ma gueule, personne n'en saura rien et tu risqueras rien. Mais c'est dommage d'en arriver à là, parce que l'État refuse de nous décriminaliser.
Et avant de commencer le travail du sexe, quel rapport t'avais avec ton image et ton corps? Et qu'est-ce que ça a changé de commencer?
A mess. Je me percevais comme une pauvre merde, en fait, parce que j'avais du succès, mais pour moi-même, c'était genre pas assez. J'ai toujours été insatiable au niveau de mon apparence. Et je pense que je me voue un culte. Et c'est toxique, j'en suis conscient. Mais à l'époque, avant le travail du sexe, j'avais souvent des remarques de personnes qui me disaient « Mais t'es trop maigre » ou « Ah non, mais t'es trop féminin, t'es pas un vrai mec » ou ce genre de trucs qui étaient à l'époque, il me blessait. Maintenant, tu me dis ça, c'est le plus beau compliment que tu puisses me faire. Mais je pense qu'en fait, le travail du sexe m'a aidé à me réapproprier mon corps, à me dire qu'il y a des personnes qui ne pensent pas comme vous, bande de petites merdes, mais qui pensent que tout est beau, en fait. Tout peut être aimé. Il suffit juste de voir avec les bons yeux, je pense.
Et aujourd'hui, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois ?
A badass bitch. Genre, je m'aime. Genre, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, parce qu'en fait, même ça, c'est dur de se le dire, que tu t'aimes, genre. Le dire à quelqu'un, c'est compliqué, mais même se le dire à soi-même, je m'aime, genre, cette phrase est, oh, pour la sortir et pour, maintenir derrière, quoi, enfin, faut quand même en arriver à un stade, je pense, surtout que tout est fait pour te remettre à ta place avec de grands guillemets, qui est une personne qui ne doit pas s'aimer, ne pas avoir confiance en soi, parce que sinon tu deviens un danger pour la société, en fait. À partir du moment où t'as confiance en toi, tu peux faire changer les choses, je pense.
J'ai une question un peu naïve. J'ai l'impression que dans les boîtes ou les soirées gays en général, il y a des tendances de corps qui sont appréciées, donc le corps plutôt musclé. Enfin, ce qui marche le plus, c'est soit le twink, soit le corps très musclé, très fit. Et est-ce que dans le travail du sexe, on retrouve des tendances similaires ou pas du tout ?
Alors ça va dépendre dans quelle catégorie, même si personnellement, je trouve que c'est dégueulasse d'en arriver à ce genre de choses. Là, je parle du milieu gay, essentiellement, je vais les tacler, désolé.
Mais
sur Grindr ou quoi que ce soit, je veux dire, nous, les putes trans et toutes les personnes racisées, on a toujours été les premiers, les premières à mener les combats, et c'est toujours eux qui en récoltent les fruits. Donc quand je les vois mettre des masques for masques, bande de pièces de merde, enfin, excuse-moi, mais no fat, no black, no Asian, genre, mais en fait, vous jouez à quoi ? Genre, c'est nous qui nous battons pour vous, vous avez eu votre mariage et maintenant vous nous pissez dessus. Je retourne sur le travail du sexe, désolé. Et du coup, ouais, je pense que dans le travail du sexe, c'est totalement différent. Quand on va sur la partie, on va dire, personne trans, je pense que moi, je suis encore perçu comme... je me fais fétichiser, en fait. Du coup, moi, je fais de l'argent sur ma fétichisation de personnes trans non-binaires. Et donc, la plupart de mes collègues, plutôt concurrents, sont des mecs blancs, musclés, avec... les gros abdos, ou alors à l'inverse, le twink bien dessiné, blanc encore. Et je pense que c'est un fléau. En fait, concrètement, j'ai rien contre ces personnes, mais je pense que le fait qu'on mette toujours en avant ces corps, qu'en fait ça devienne la seule source d'attraction pour tout le monde, c'est dangereux en fait, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ne correspondent pas à ce schéma-là que de personnes qui correspondent... Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Et je trouve ça dommage de montrer un échantillon de la société qui n'est pas du tout révélateur de la société comme source d'attraction. Pour résumer, je ne pense pas que les mecs blancs musclés ou les mecs blancs twink devraient être les sex symboles de la communauté gay. C'est pas le cas, en fait. Je pense que tout le monde est un sex symbole à sa manière, et il serait temps d'accepter le fait que on est tous et toutes uniques à notre façon. Et donc Merde, il faut qu'on arrête ce besoin incessant de créer des icônes ou de tous adorer tel ou tel type de trait.
Pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, Mask for Mask, c'est ce que disent certains utilisateurs d'applications de rencontres gays pour désigner le fait qu'ils se considèrent comme physiquement masculins et qu'ils veulent des partenaires sexuels physiquement masculins ou perçus comme virils. Et en fait, c'est quoi ton identité de genre aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je suis genderqueer, c'est-à-dire non-binaire. Mais il n'y a pas eu beaucoup de recherches sur la non-binarité en France, donc le terme genderqueer me semble plus approprié. En gros, c'est en opposition au schéma binaire, c'est-à-dire la représentation des deux genres uniques aux yeux de la société qui seraient homme et femme. Et donc moi, non, je ne suis pas dans ce... Je me retrouve pas dans ces schémas, en fait. Donc je suis hors de ça, je ne me considère pas en tant qu'homme, je ne me considère pas en tant que femme. Comme je disais tout à l'heure, même au niveau de mon orientation sexuelle, je ne sais pas ce que je suis. Mais je sais ce que je suis pas, c'est plus facile de...
Et d'ailleurs, sur les applications ou les sites d'annonces pour le travail du sexe, est-ce qu'il y a des cases pour ça?
Non, il n'y en a pas. Du coup, en fait, ça c'est un vrai problème, parce que quand je vais sur des annonces, on va dire, de personnes trans, comme je ne suis pas encore hormonée, on va me dire « Non, tu ne peux pas annoncer ici, tu es trop masculin ». Ou alors, quand je suis sur des sites, on va dire, bah, du coup, gay, mais sous-entendu HSH, et donc là, c'est un vrai problème, parce que je suis toujours hyper féminin, j'ai toujours des grands talons, même sur mes photos où je suis censé être à poil, je garde mes chaussures parce que j'adore ça, et puis on sait jamais, il y a peut-être des fétichistes, et donc on me dit, désolé, c'est trop féminin, mais il y a aussi, comment dire ça, le revers de la médaille, qui est plutôt du coup le bon côté de la médaille, c'est qu'il y a beaucoup de fétichisation, des personnes qui ne savent absolument pas ce que je suis, mais qui disent « Oh, tu es trop androgyne, j'adore, t'es un mec », et qui appuie bien sur le « t'es un mec androgyne », et moi je suis là « Vas-y, mais genre moi, donne-moi tout ton pognon, connard, ça t'en fera moins, mais genre moi, donne-moi ça », genre c'est génial. Et pareil pour l'autre côté, les personnes qui veulent absolument une personne trans, la grosse fétichisation des, comme ils appellent ça, les femmes zizi, ce qui est un terme qui me donne envie de vomir en torrent. Du coup, ces personnes viennent me dire « Oui, tu te considères comme une femme, moi j'aime bien le fait que t'es quand même un pénis. » Donc je suis « Ouais, ok, très bien, donne-moi ton pognon et ensuite insulte-moi. » Enfin, je préfère être payé par ces personnes-là et me faire mégenrer, même si c'est maladroit et ça reste hyper blessant, que de me faire insulter dans la rue par des connards qui vont même pas me payer. Donc je me dis « C'est un échange équitable.
» Ouais, tu utilises cette ambiguïté-là pour calquer au fantasme de ces mecs-là,
c'est ça.
Leur fétichisation.
Et tout à l'heure, du coup, tu parlais des représentations. Est-ce que tu as vu le film Sauvage?
Non.
Non.
Je pense qu'en fait, on est souvent dépeint comme ça, même au-delà du cinéma. On va toujours dire d'une personne qui est pute ou prostituée, « Ah, oh, mais elle ne sait pas ce qu'elle fait », ou alors « Elle est victime d'elle-même », ou « Elle est victime d'un proxénète, donc on la drogue », ou alors « Elle se drogue pour oublier ce qu'elle vient de faire ». Non, honey, je suis pas en train de nier le fait qu'il existe des réseaux de trafiquants qui font de l'exploitation sexuelle, mais une majorité de personnes sont des indépendantes ou alors des travailleuses du sexe qui sont dans des coopératives. Enfin, coopératives, c'est pas aux yeux de la loi des coopératives, mais elles s'entraident, il y a du communautarisme et du bon communautarisme, même si je pense que tous les communautarismes sont bons. Je pense qu'elles s'entraident et ça nous permet d'être soudés contre justement cette représentation qui est mauvaise de nous-mêmes. Ouais.
Je crois que j'ai lu sur ton blog d'ailleurs, tu fais très bien le distinguo entre le travail du sexe et... les viols à répétition de personnes qui sont forcées à le faire, en fait. Enfin, des viols à répétition,
oui,
en fait.
L'exploitation.
Exactement.
Et toi, quand tu le fais volontairement, c'est différent, oui. Et ça, c'est du travail.
Et d'ailleurs, moi, j'ai adoré ton blog. Je l'ai lu de fond en comble.
Ah.
Et t'as vraiment un truc pour l'écriture. Est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais bien faire ou c'est juste un passe-temps d'écrire?
Ouais, je veux trop en faire mon métier. Enfin, j'ai déjà un métier, mais je pense qu'on peut avoir deux métiers. La puterie, ce sera pour manger. L'écriture, ce sera pour percer. J'ai très, très, très envie. Et j'aimerais juste rebondir sur l'aspect exploitation sexuelle. C'est un terme que j'adore parce qu'en fait, je pense que on devrait se défaire du mot proxénète. Parce que proxénète, c'est reconnaître, enfin, c'est ne pas reconnaître le travail du sexe. Parce que dans l'industrie du travail aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se font exploiter, qui se font amener, par exemple, des personnes subsahariennes qui se sont amenées dans le 16e, dans les bâtiments. Je parle pas de travail du sexe, je parle de ce qu'ils appellent et ce qu'elles appellent des domestiques. On leur donne un matelas, elles dorment par terre. Et elles font le ménage, etc. C'est de la putain d'exploitation. Et en fait, quand on appelle ça de l'exploitation, ça remet en cause le système capitaliste. Et du coup, tout le monde essaye d'éluder ça. Avec le travail du sexe, c'est la même chose. Quand ces personnes-là sont exploitées sexuellement, qu'on les force en fait à travailler, eh bien, c'est de l'exploitation. Et du coup, le terme proxénète est là pour essayer de dire, ah non, c'est pas un vrai travail, c'est toujours de l'exploitation. Et donc, ouais, je pense que c'est important, même si on ne devrait pas les. Enfin, même si ces personnes-là ne se considèrent pas comme travailleuses du sexe, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on rentre dans le droit commun pour pouvoir leur accorder des protections sociales en tant que travailleuses.
On parlait de la loi de 2016 sur la pénalisation des clients, et je me demandais aussi, ça a changé ta manière d'aborder le travail, t'es passé plutôt des sites d'annonces à éventuellement aller sur le terrain?
2016, c'était la pénalisation des clients en France, et en 2018, aux États-Unis, il y a Donald Trump, enfoiré. Donald Trump qui a fait passer la loi Siesta Fosta. En gros, c'est une loi qui consistait à fermer tous les sites d'annonces des travailleuses du sexe, concrètement, parce qu'il disait que les gens qui touchaient de l'argent sur nos annonces étaient nos proxénètes, alors qu'en fait, c'est comme tout site, des fois tu dois payer un abonnement pour annoncer, tu vois ce que je veux dire? Et donc, comme c'était des subsides du travail du sexe, ils disaient non, ce sont des proxénètes! Et donc, ils ont fermé tous nos sites, c'est-à-dire Viva Street, la section érotique est terminée, Craigslist, c'est pareil, il y en a encore plein d'autres dont j'ai pas les noms qui ont fermé, que j'utilisais beaucoup moins. Et du coup, ces deux-là étaient enfin, tellement utilisés par les travailleuses du sexe que ça a facilement enlevé la moitié de notre source de revenus. Et aujourd'hui, bah, ça a poussé beaucoup de personnes à retourner sur le bois, concrètement, le bois ou la rue. Et donc, moi, j'y suis allé et je me suis dit qu'en fait, bah, mon Dieu, je préfère être sur Internet, concrètement, parce que la précarité, quand tu es travailleuse de rue, est vraiment oh, incroyable. Concrètement, moi, je suis une nouvelle, c'est-à-dire que j'y connais foutrement rien. Et du coup, de mon expérience personnelle qui ne reflète probablement pas ce qui s'y passe dans son intégralité. Quand j'y suis allé, j'étais à du coup Porte Dauphine, je savais pas du tout comment faire. Enfin, je me suis dit bon, je vais bosser. J'étais avec une copine qui y avait déjà été. Donc, on se met sur l'emplacement le plus susceptible d'avoir du passage et on commence à faire un client. Ça se passe bien. Et ensuite, il y a des nénettes qui passent et qui me font ouais, vous devez pas être là. Hein, faut que vous restiez dans votre case, machin. Je me dis, comment ça? C'est quoi ma case? Du coup, je me mets où pour bosser? J'ai pas envie de piquer ton territoire, mais quand même. Et donc, elles nous disent, oui, bah, du coup, faut que vous alliez avec celles qui sont comme vous. Et je me dis, bah, comment ça? Elle me dit, bah, toi, t'es trans, t'es PD, t'es quoi? Je dis, bah, je suis pute. Enfin, je comprenais pas le but de sa question. Et ensuite, après, elle m'a expliqué qu'en fait, tu vas avec tes origines. Genre, par exemple, je suis d'origine algérienne, du coup, moi, je suis allé avec les Algériennes. Et bah c'est comme ça en fait, tout est petite communauté par petite communauté. Sauf que avant que j'aille avec les Algériennes, je me suis dit bon, je peux peut-être en faire un autre ici.
Vite fait.
Pire idée de ma vie. Pire idée de ma vie. Il y a quatre nénettes qui sont arrivées et
Attends-je.
ah mais quand je te dis qu'elles montaient, mais c'était mais violent.
Ah ouais.
Là, elles arrivent, elles me font ouais. Tu bosses ici toi? Je la regarde, je fais bah ouais. Elle me dit on va voir, on va voir. Donc elle commence à bouger vers moi, je suis là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais vraiment me faire défoncer là. Et donc elle me jette sa putain de lampe torche dans la gueule, je me dis, oh mon Dieu, ça commence. Donc j'étais en putain de talon aiguille de 10 cm de haut au milieu du bois de Boulogne, j'étais, ah mais qu'est-ce qui se passe? Donc je commence à courir ma race sur la route en fait, sur le milieu de la route, parce que je me disais, est-ce que je suis plus en sécurité sur la route où les voitures roulent à 80 ou sur le bois où elles vont me traîner et me défoncer la gueule? La route, donc je cours sur la route, j'essaye d'arrêter les voitures et en même temps je sprinte en talons et j'entends les autres qui essayent de me jeter leur lampe torche et qui hurlent, mais enlève tes talons, connasse! Et j'étais là, ah! Je cours, je cours! Et je me reprends la lampe torche dans le dos, j'étais acheté, oh! Et à un moment, il y a sa copse qui arrive et qui me dit, ouais. Arrête de courir, arrête de courir, je veux juste parler. Je lui dis, bah, parle de loin, parle de loin. Donc, je continue de marcher vite, et à un moment, je sais pas pourquoi, mais je m'arrête, genre, débile. Je me postiche, et elle me dit, tu sais, t'as pas à travailler ici, tu vas dans ton coin et tu nous fais pas chier, on est là avant toi. Je fais, ok, c'est bon, je m'en vais. J'étais là, je ferme ta gueule, trace ta race. Donc je me remets à marcher, sauf qu'il y a l'autre connasse qui arrive derrière moi et qui me met un putain de chassé dans le dos. Mais bon, j'avais mon gros manteau en fourrure, et puis elle était en talon, donc en fait elle s'est cassée la gueule en essayant de me mettre un coup de pied. C'était une scène tellement cocasse que, en fait, en courant, je riais, mais c'était genre... Et genre c'était trop débile et du coup j'ai fini avec les Algériennes qui bossent genre généralement vers l'entrée de Dauphine et elles m'ont passé de la glace et j'étais avec elles en train de leur dire oh non mais elles étaient méchantes avec moi, c'est terrible et voilà. Donc le bois est assez sportif, ouais, en sportif. Fait genre, je pense que si j'ai un conseil, même si il ne faut pas faire de l'incitation à la prostitution, ne portez pas de talons si vous allez au bois.
Okay. Heureusement pour petit nous, point juridique.
En gros, ça a été abrogé le délit de racolage, c'est-à-dire que tu peux, par exemple, là, si je te dis, chaton, est-ce que tu voudrais pas passer du bon temps avec moi? C'est 50 euros l'amour. Tu vois, moi, je risque rien. Par contre, toi, si tu dis oui, c'est toi qui vas te prendre l'amende. Mmh. Donc, en gros, le racolage n'est plus un problème, mais ce qu'il est devenu, en fait, c'est les clients. Donc, on repart sur une dynamique totalement hypocrite de la part de l'État, parce qu'il faut savoir que si on ne déclare pas nos impôts, on a des redressements fiscaux. Et ils les calculent comment? Ils se disent, oh, c'est une pute, c'est 50 euros l'amour, et elle se fait 10 clients par jour, et oui. Donc, 5 fois 10, ça fait 500, il y a 30 jours dans un mois, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Je suis très nul en maths, hein. On imagine des sommes, et ils te calculent ça, et ils t'envoient une putain de lettre, et tu dois payer.
Mais et du coup, tu te déclares? Comment ils savent que...
T'es obligé, du coup.
T'es obligé de te... Enfin, t'es pas obligé, mais je pense que c'est mieux de te déclarer.
Ça te revient moins cher, quoi.
C'est rare parce qu'ils trouvent. En fait, c'est difficile de trouver qui est une pute.
Ouais.
Mais s'ils te trouvent, ouh, gare à toi.
D'accord. Ils tracent au niveau de tes revenus,
c'est
peut-être
ça.
En banque.
Si, ouais, c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas de compte en banque. Enfin, j'en ai un, mais je mets pas de cash dessus. Parce que l'État te. En plus, si tu veux te déclarer, il faut que tu fasses une fausse déclaration d'impôt parce que tu dois. T'as pas de case travailleur du sexe.
Ma sœur.
En fait, c'est ça, tu rigoles, mais en fait, c'est vraiment ça. Et ma sœur, tu peux même pas le faire parce qu'il faut une formation, parce que c'est le statut auto-entrepreneur. Du coup, tu peux être sophrologue ou hôtesse communication, enfin des conneries comme ça. Et en gros, tu dois payer tes impôts sous un faux truc.
C'est tellement hypocrite.
Mais oui, parce qu'en fait, si tu disais que t'étais un travailleur du sexe avec l'état actuel des choses dans ton déclaration d'impôts, ça veut dire que l'État est ton proxénète au lieu de la loi. Parce qu'ils toucheraient les subsides de la prostitution. Et donc, ouais, ils sont hyper malins et hyper cons en même temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, ils sont juste très cons.
D'accord.
Ah ouais. Donc, s'ils disent, moi aussi, je suis venu en mettre 50 euros l'amour x ouais. 10 par jour sur 30 jours, ça fait 15 000 euros par mois.
À l'année, oui, t'es un cadre. Bon, non, t'es pas un cadre, tu
gagnes. Ouais. 15 000 euros par mois, putain.
Oui.
X 12. Alors que 180 000.
C'est pas la réalité.
Imagine, t'as un 13e mois. Tu peux pas bosser,
déjà, tu peux pas bosser tous les jours. Enfin, c'est un rythme incroyable. Et tu te fais surtout pas 10 clients. Enfin, il y en a qui le font, mais c'est éprouvant. Et puis, même au-delà de ça, c'est pas des chiffres révélateurs de notre réalité. On bosse pas H24. Surtout que même quand tu te déclares. Le statut d'entrepreneur, on va se mentir, c'est de la merde. Moi, j'aimerais avoir un vrai statut qui me corresponde et où je puisse avoir un putain de chômage. Parce que des fois, ou même d'incapacité de travail, quand je me fais casser la gueule par un agresseur, je peux plus travailler. Enfin, qui voudrait d'une pute à la gueule cassée? Enfin, peut-être que c'est un nouveau kink, mais en attendant, ça fera baisser mon chiffre d'affaires et donc je suis pas dans la capacité de travailler. Et je pense que c'est important d'avoir une couverture sociale pour les putes, parce qu'on est, on est exposé à beaucoup de risques, en fait. Ça. Ouais. C'est que beaucoup de gens disent « Mais t'es forcé à le faire parce que t'as besoin d'argent. » En fait, tout le monde travaille pour avoir de l'argent, chaton. Je pense que si on n'était pas forcé, comme tu dis, c'est-à-dire avoir une pression économique, personne ne travaillerait, en fait. On ferait tous nos loisirs, c'est-à-dire jouer aux jeux vidéo, écrire des bouquins, ou chanter dans la rue, ou que sais-je. Mais en attendant, on a tous besoin de bouffer, on a tous besoin de s'habiller, on a tous besoin de payer, payer des factures. Donc ouais, on bosse. Donc moi, je pense que si je l'ai fait au départ, c'est par, on va dire, curiosité, et en même temps pour me... Comment dire ça? Pour me tester. Donc ouais, encore une fois, de la curiosité. Et du coup, après, je me suis rendu compte, en fait, je peux m'en faire du fric, donc go for it. Parce que j'ai aussi eu une période où, en fait, je bossais dans un métier reconnu par la loi, c'est-à-dire serveur, ce qui est génial. J'étais payé 7,53 € de l'heure, à me faire insulter par des clients qui me claquaient des doigts pour que je vienne leur apporter leur plat ou qui me disaient « je veux une carafe d'eau » alors que je leur montrais que dans notre bar on n'avait plus de carafe d'eau, je leur proposais de remplir des verres d'eau, ça m'a traumatisé, désolé. Et ils me suivaient, ils me disaient « je veux une carafe d'eau, appelez-moi le manager !» Du coup j'ai quitté ça parce que je me suis dit « attends, tu es pute à côté, tu te fais 200 euros de l'heure. » Et là, tu fais 7,53€ par heure pour te faire insulter, alors que quand t'es pute, c'est toi qui insultes les gens. Choisis ! Choisis ! Enfin, du coup, j'ai choisi.
Tu n'as pas commencé le travail du sexe pour des questions de précarité, mais est-ce que c'est des questions de précarité qui te font continuer ?
Mais je pense qu'il y a différentes échelles de précarité. Aujourd'hui, moi, je peux pas me permettre de ne pas travailler, on va dire. Ma mère a mon logement, mais elle... Comment dire ça ? C'est la loi de... Si tu ramènes rien à la maison, bah tu restes pas à la maison. Donc je paye mes études, bon c'est pas très cher en France, merci, d'ailleurs ça risque de changer, all shade to Macron, et du coup je pense que aujourd'hui j'ai besoin de ça pour bouffer, pour sortir, pour faire tout ce qui, concrètement tout mon fric me sert à vivre, que ce soit pour acheter des vêtements ou pour sortir en boîte ou pour bouffer, pour donner une part du fric pour le loyer.
Et puis t'arrives à avoir une vie...
Affective.
Affective, romantique.
Est-ce que t'en veux une ?
Est-ce que t'en veux une, en fait, déjà ?
Alors, j'ai une période où j'en voulais une. Et donc, j'étais en relation libre, à distance, a mess, avec quelqu'un qui habitait en Malaisie. Et du coup, il venait à Paris une fois par an, pendant un mois. Et bah, là, du coup, c'était le début de cette année, en janvier, je crois. Il est arrivé en décembre dernier. Et du coup, il est venu s'installer chez moi, parce que c'était l'époque où j'avais mon propre appart, on va dire. Et du coup, on était ensemble, ça se passait très bien, mais il se trouve qu'en fait, c'était un mec totalement toxique qui s'est mis à m'insulter, à me taper sur la gueule. Donc j'ai dit « Oh merde, mais pourquoi toutes les emmerdes me tombent dessus ?» Donc je l'ai viré de ma vie, et en fait, ce mec a bousillé tout mon réseau de clients. Il a appelé il a fait ça avec mes amis. En fait, c'est une personne totalement toxique qui voulait me coincer. Il a dit à mes amis que j'étais une mauvaise personne. Il a dit à mes clients que je leur mentais, que je les aimais pas. Ce qui est vrai. Mais c'est mon métier. Et t'as pas à leur dire, en fait. Genre, tu bousilles mon business. Donc, ça m'a blessé à mort. Et je pense pas que ce soit vraiment lié au travail du sexe, mais je pense qu'en fait ce mec était juste une pourriture. Et maintenant aujourd'hui, j'espère en fait trouver l'amour naïve. Et j'ai beaucoup de personnes en fait qui sont dans mes cercles et qui m'intéressent. Avec qui je peux parler ouvertement du travail du sexe. Et en ce moment, je vois une personne qui est aussi travailleur du sexe et on s'entend très bien. Et je pense que ça peut peut-être marcher, voilà tout. Donc ouais, je pense que c'est pas indissociable d'avoir une vie affective et d'être travailleur ou travailleuse du sexe, parce qu'en fait, je pense que faut arriver à différencier, comme je le disais tout à l'heure, les trois étapes de sexe, on va dire. Pour moi, le stade... en fait, il y en a même quatre au final. Je parlais du sexe avec un plan cul, sexe avec un sex friend et celui avec ton partenaire. Je pense qu'un client, c'est le stade en dessous du plan cul, c'est-à-dire que c'est le boulot, en fait. C'est juste du sexe avec du fric. Enfin, concrètement, c'est le fric qui représente l'intégralité de la démarche, j'ai envie de dire.
Et est-ce que t'as déjà eu du plaisir, ou c'est vraiment très factuel quand on te rend plein travail, en fait ?
Bah, je pense que c'est factuel, parce que même quand j'y vais, enfin, là, c'est mon expérience, j'ai des copines qui prennent leur pied avec leurs clients, elles ont de la chance, moi, je pense qu'ils sont juste très nuls au lit, enfin, désolé, ils tentent des trucs, des fois, donc ça me fait plus rire qu'autre chose, et je me dis qu'il y en a qui ont vraiment aucune connaissance de leur propre corps, et donc ça empiète sur ce qu'on pourrait faire, même si j'essaie toujours de donner le meilleur, enfin, si t'es pas réceptif, t'es pas réceptif, hein. Et donc, ouais, des fois, je m'amuse, mais le truc, c'est que ça peut être nul. Genre, c'est un rapport pourri, ce qu'on peut tous avoir, même avec un plan cul ou je ne l'espère pas, vos partenaires.
D'ailleurs, c'est l'occasion de casser un mythe. Les mecs peuvent jouir sans éjaculer, et éjaculation ne veut pas dire jouir.
Bah, je te suis totalement, parce que je pense qu'en fait, dans la phallocratie dans laquelle on vit, tout tourne autour du pénis, en fait. Il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas, et des personnes qui en ont, mais qui ne s'en servent pas de la même façon que ce qui est attendu de eux ou de elles. Et je pense que c'est un vrai problème, en fait, qu'on fasse tourner tout le sexe autour de la bite, parce que, je suis désolé, on a plein d'autres extrémités qui peuvent être très bien utilisées, on a plein d'autres orifices, si on veut rentrer littéralement dans les détails, et je pense qu'il y a beaucoup de façons de prendre son pied, ou de ne pas en prendre, libre au fétiche, pendant le sexe, quoi. Je pense que tout ne tourne pas autour des parties génitales.
Est-ce que le fait que tu sois racisé influe sur ton travail ?
Moi, je pense que ça influe légèrement, parce que moi, j'ai un white passing. Il y a des personnes qui vont, là, en l'occurrence, moi, me fétichiser, me dire « Ah, mais j'aime bien parce que tu vois, t'es un peu mixé, tu viens d'où? Je dis, je suis né en France, je suis français. Non, mais t'as un petit peu trop de couleurs, tu viens d'où? Je suis italien et algérien. Ah oui, je me disais bien. Et du coup, j'aime bien parce que ça fait un mélange et tu fais pas trop arabe quand même. Et genre, là, quand on te dit ça, tu te dis, mais. Leave me alone! Je l'ai quand même baisé parce que j'allais dans son fric et je me dis que prendre le fric des connards, ça peut toujours leur faire moins de fric à eux, tu vois ce que je veux
C'est une
dire?
bonne action.
Mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui vont vivre des trucs encore plus violents. Je pense que c'est toujours la même chose avec le racisme, en fait. Enfin, c'est une phrase terrible, mais plus tu t'éloignes de la blanchité, plus tu vas t'en prendre plein la gueule.
On n'arrête pas de renvoyer les travailleurs et travailleuses du sexe à la question de la précarité, mais il y a aussi beaucoup de précarité du côté des étudiants et des étudiantes. Quand tu dois assurer tes cours, réviser en dehors, faire tes devoirs, réussir tes partiels, tu as besoin d'être éveillé. Et en fait, si tu as un job étudiant à côté, ça te compromet beaucoup dans ta réussite de tes études. Et donc forcément, le travail du sexe, ça apparaît comme une solution à tous tes problèmes, quoi.
Je pense que
Et ça
c'est pour
t'épuise
ça
et
que
ça
le travail du
t'empêche.
sexe est très pratique. Désolé de t'interrompre.
Non,
Au niveau de. C'est moi. Au niveau du travail du sexe, quand tu es étudiant, c'est le métier le plus facile d'accès parce que t'as pas besoin de. Quand je dis compétences, c'est de diplômes, ce genre de choses. T'as pas besoin de qualifications, pas de formation. Et du coup, tu peux t'y tourner assez facilement. T'as pas besoin de souscrire à une formation ou ce genre de choses. Et donc. T'as pas besoin d'emploi du temps, genre tu dis que tu veux un client à telle heure hors de ton cours, tu te le fais, puis ça y est, tu vas pouvoir manger, et ainsi de suite. Alors que quand j'étais étudiant, j'étais au lycée à cette époque, et c'est là où du coup je vais peut-être rejoindre malheureusement le schéma de sauvage. J'avais les cours de 9h à 17h, et ensuite j'allais à mon job qui était à 17h30 jusqu'à 2h du matin, 3h. Et je me réveillais, ainsi de suite, pendant, six, pendant allez, 9 mois, 1 an, c'était pendant mon année, genre. Du bac de français. Et genre, j'étais obligé de charbonner pour me faire de la thune. Et j'étais en plus, j'étais pute à côté, donc multifonction, multitâche. Et donc là, ouais, j'ai commencé à prendre de la coke pour essayer de tenir bon. Concrètement, je prenais de la coke pour aller au lycée, je prenais de la coke pour travailler au boulot, pour être payé 7,53 € de l'heure. Ce qui fait que tous mes 7,53 € de l'heure, ça me faisait en gros une journée, 1 gramme et. Enfin, je prenais pas 1 gramme par jour, mais genre une journée de travail, concrètement, ça représentait 1 gramme de coke. Et donc j'étais en train de transférer tout mon, enfin une bonne partie de mon pognon dans la drogue qui me permettait de travailler. Mais au final, je ne touchais pas vraiment d'argent dessus. Et donc j'étais dans un cercle vicieux horrible. Et ensuite, j'en suis sorti en me disant 7,53 € 200 €. À
L'équation est
quoi?
vite faite.
Ouais, clairement. Et surtout, je pense que c'est super pertinent parce qu'aujourd'hui, et surtout avec toutes les questions au niveau de la fac, les prix, etc., qui montent. Et la sélection à la fac, ce genre de choses, en gros, tu vas être jugé sur deux dynamiques de travail. Tu vas avoir les personnes qui vont être nourries, logées, blanchies par leurs parents, qui vont avoir 500 € d'argent de poche, et tu vas avoir les autres. Les autres qui vont devoir travailler 8 heures par jour, ce qui fait 35 heures par semaine, et aller au lycée 30 heures. Donc tu te retrouves à avoir des putains de, je dirais pas ouvriers, mais enfin quasiment, on est là, on charbonne à mort pour bouffer, et derrière. On va te dire, ah, oh, mais si vous avez des mauvaises notes, c'est que vous travaillez pas assez. Alors que
Il peut dormir la nuit.
cette
Quel
bitch peut
travail on parle!
dormir, et c'est ça, genre. Je suis désolé, mais quand tu as des connards qui vont avoir le temps d'avoir des cours particuliers chez eux, qui vont pouvoir être focus sur leurs études, qui vont même pouvoir aller boire un verre, un de ces quatre avec leurs copines, alors que toi, tu es là, tu es en train de te défoncer la gueule, ensuite, toi, tu vas pas boire un verre, tu vas boire le bar entier pour essayer de dormir parce que tu es trop éclaté de ta journée. Je suis désolé, mais on va pas. C'est pas juste, c'est pas équitable comme traitement. C'est juste nier le fait qu'il y a des personnes qui aient besoin de travailler pour vivre. Et en fait, c'est un peu la base de leur putain de système. Donc, encore une fois, ils se foutent de notre gueule.
Ouais, clairement, c'est enfin même la fac, c'est un système de reproduction des élites, hein. Enfin, effectivement, quand t'es nourri, logé, blanchi, c'est beaucoup plus facile de réussir que quand tu vas cheminer à côté, quoi. Moi, je me souviens quand j'ai commencé les études, à la fac, je travaillais chez Quick et j'étais crevé tout le temps. Enfin, en fait, et moi, je pensais au travail du sexe. Enfin, et justement, enfin, j'y pensais, j'étais en train de me dire, mais en fait, c'est le seul moyen pour réussir mes chères études et avoir quand même un semblant de vie sociale à côté. Enfin,
Ouais, c'est ça le
c'est un
pire,
putain de
parce que
cercle
c'est un
vicieux.
gros cercle vicieux. Tu peux même pas avoir d'amis, tes amis vont t'en vouloir de pas sortir, et en même temps, c'est quand t'as des amis qui ont justement la chance,
D'être en vie.
c'est ça.
D'être nourri, logé,
Et
blanchi,
de l'autre
ouais.
côté, tu vas avoir tes compères et tes consoeurs qui sont dans la même merde que toi, du coup, vous appelez au téléphone, genre à 3 h du mat. Mon Dieu, j'en peux plus, je suis exténué, je jongle entre deux jobs et ma fac, et t'es là, tu te dis, mais oh, putain, comment c'est possible Bah de laisser ça se passer. Moi, je suis totalement pour une sorte de revenu universel qui permettrait aux gens de bah déjà un tout petit peu plus d'équité. Parce que quand on dit ça, on dirait que c'est oh, c'est fini, tout le monde va avoir du fric. Mais en fait, c'est juste la base. Quand tu es un être humain, quand tu produis un être humain, le minimum, c'est de le faire vivre. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que
Ah
je veux
bah
dire.
oui,
Enfin, parce
totalement,
que
oui.
quand j'explique ça à d'autres personnes, ils me disent bah non, c'est insensé en fait. Bah, du coup, tu fais quoi? Tu le laisses mourir? Tu tournes les yeux? Parce que c'est ça qui attend beaucoup de personnes en fait. Ou juste de reproduire les mêmes schémas de précarité. Oh, on fait toujours le même petit boulot et c'est toujours les autres qui vont tirer un profit. Donc, fuck. Mais ça, c'est un vrai cercle vertueux pour moi, le revenu universel, parce que ça te laisse le temps bah, de respirer, de prendre du
Tout à
recul
fait.
et de produire, que ce soit des créations artistiques, du travail associatif, qui peut réinjecter une autre forme de productivité dans la société
Exactement.
dont on manque cruellement. Enfin, je suis désolé, mais aujourd'hui, tout le monde fait du métro, boulot, dodo, et bye! Genre, et notre vie, ça va être ça. Enfin, et c'est ça qui me fait en fait trop
Jusqu'à
peur.
65 ans, 67 ans,
Si la retraite existe
67.
encore,
On est d'accord.
quand on aura cet âge-là.
Bah non, il faut faire
Exactement.
nos économies nous-mêmes, voyons, mais tout en cotisant.
On parlait du statut d'étudiant, du coup toi t'es en études de lettres, et en fait on a vu que t'avais un blog, t'écris très bien, est-ce que t'ambitionnes déjà de 1 de faire le travail du sexe encore longtemps ou pas? Et de 2, est-ce que t'envisages d'écrire de manière professionnelle?
Alors, j'envisage de faire le travail du sexe aussi longtemps que les gens voudront de moi, littéralement. Tant que je peux en tirer du pognon, je le ferai. Et ensuite, au niveau de ce qui va être l'écriture, ouais, j'ai vraiment envie d'en faire quelque chose de, je dirais pas, enfin, professionnel, dans le sens, je vais m'en faire du fric, mais artistique. J'ai vraiment envie de m'en servir d'un point de vue politique, artistique et engagé. Parce que j'écris énormément sur le travail du sexe et sur ma perception du travail du sexe, j'aborde ça de façon un peu alternative pour pouvoir permettre aux gens de pas de s'identifier, enfin si en fait, de rendre la chose plus réelle, que beaucoup de gens ont beaucoup de préjugés sur le travail du sexe et de la façon dont je l'écris, ça rend la chose un peu, comment dire ça, je dirais pas légère, mais plus facile d'accès, même si dedans je mets des témoignages hyper choquants parce que en fait c'est choquant ce qui nous arrive et bah je pense que ça permet aux gens de se rendre compte de notre réalité et je pense que en fait ça a toujours été le cas quel que soit le métier quel que soit la minorité il faut pas enfin c'est à nous de parler de nous en fait et je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à changer les choses.
T'as un client. Tu regardes ton téléphone encore un petit moment. T'as pas envie de bouger maintenant, mais tu bouffes des pâtes depuis 100 ans. Tu penses à ce que tu mangeras avec l'argent du client. Tu penses à ce que tu mangeras après avoir mangé le client. Tu regardes l'adresse sur ton téléphone. Tu dois aller à Asnières-Gennevilliers. Tu passes en mode discret. Tu dois pas te faire repérer. Si les voisins te voient rentrer, ton client se fera insulter. Tu marches le long d'un bâtiment. Ton client te dit de monter maintenant. Il te guide. Il te fait tourner en rond. Tu lui dis que tu as le GPS. Il te dit qu'il connaît un autre chemin. Tu te dis que c'est étrange. Tu te laisses guider par les billets. Il te fait tourner dans tous les bâtiments. Tu te retrouves enfin en bas du sien. Il te fait coucou par la fenêtre. Tu rentres discrètement. T'envoies l'adresse du mec à ta copine Issé pour qu'on retrouve tes restes si jamais il décidait de te découper. Tu lui dis de paniquer si tu ne réponds pas une heure après. 19h15. Le chrono est lancé. La course contre le blé va commencer. Il te fait entrer, il te demande comment s'est passée ta journée. Il te demande si tu as envie de manger. Tu lui réponds que tu veux qu'il pose le blé sur le canapé. Il est totalement défoncé, sa mâchoire dense, le coupé décalé. Et tu te demandes pourquoi ses yeux regardent chacun de leur côté. Tu te dis que ça se trouve, ils se sont fâchés. Tu te dis aussi que s'il refuse de poser le blé, tu peux t'en aller. Tu te dis qu'au pire, il te reste du poisson surgelé. Il te dit qu'il te donne l'argent. Il te dit qu'il n'a pas assez. Tu lui dis qu'avec 100 E, il n'aura pas accès à l'intégralité de tes fonctionnalités. Il te dit qu'il est OK. Il te dit d'aller dans la chambre. Tu vas dans la chambre. Il te dit de te mettre à l'aise. Tu te mets à poil. Il se met à poil. Tu es allongé à côté de lui. Il n'arrête pas de parler. Il te dit qu'il n'est pas gay. Il te dit qu'il est hétéro. Il te dit que son ex l'a quitté et qu'elle a pris tout son blé. Tu te dis que t'es pas comme elle. Tu te dis que là au moins, il sait que t'en as après ses billets. Il te dit qu'il aime la personne que tu es. Il te dit qu'il aime que tu sois fin. Il te dit qu'il n'aime pas les autres gays. Tu l'écoutes sans parler. Tu le laisses parler sans vraiment l'écouter. Tu penses à ce que tu vas manger après. Le temps file et tu l'as toujours pas touché. Je te dis que s'il fait rien, tu partirais avec son blé sans hésiter. Je te dis que c'est pas à toi de commencer. Je te dis que ça se trouve, il t'a payé pour parler. Je te dis que psychothérapeute, c'est bien comme métier. Extrait du texte d'un client sur le blog luxuriousslot.com.
Est-ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que donc ça, il y a ce côté très désacralisant dans ton écriture. Tu vas du tac au tac, enfin c'est vraiment très incisif, et tu parles à la première personne tout en étant parfois dans la tête ouais. des clients que tu vas voir, et ça donne tellement un autre regard. Enfin, j'ai adoré moi ton blog. Et est-ce que tu penses que tu pourrais écrire sur autre chose? Ou c'est vraiment ton inspiration, c'est ton vécu personnel qui t'inspire?
Je pense que je suis incapable d'écrire de la fiction ou quelque chose qui ne me touche pas d'une façon directe ou indirecte. Parce que, en fait, j'ai un vrai problème au niveau de la légitimité. Je pense que tout ce que je dois dire ou faire, il faut au moins que j'en sois en partie responsable. Enfin, que je sache vraiment de quoi je parle avant d'en parler, parce que j'ai pas envie de blesser des personnes qui se sentiraient plus concernées par ce sujet que moi. Et c'est pour ça que j'ai un mauvais rapport avec la fiction. Des fois, je vois des choses qui sont censées me représenter et qui me donnent la gerbe. Et du coup, je me dis, non, t'aurais pas dû en parler, en fait. C'était peut-être mieux avant que tu sois là. Et donc, ouais, je pense que ça rejoint mon premier propos. Faut parler des choses qui nous concernent. Si on veut faire de la fiction, je pense qu'il faut être très bon ou très bonne.
C'est vrai.
Est-ce que t'es familier avec les principes du féminisme pro-sexe ou...
Ouais, je soutiens énormément une grande partie des personnes qui se disent pro-sexe. Après, c'est un mouvement qui est beaucoup plus développé en Amérique de ce que... Enfin, comment dire ça? De ce que j'en ai lu et entendu. En France, on essaye de se positionner en tant que pro-sexe, mais t'as aussi des personnes qui vont dire que être pro-sexe, c'est pas nécessairement être pro-travail du sexe. Donc des fois, ça pose un certain conflit.
Si ton féminisme n'est pas inclusif, ce n'est pas du féminisme. Et surtout s'il exclut des personnes aussi précaires que certains travailleurs et travailleuses du sexe ou...
Quand t'es travailleuse du sexe, la plupart du temps, là je parle des traditionnels, t'es aussi migrante. Mmh. Et en fait, la chasse aux putes, c'est une grosse chasse aux migrantes sous le couvert de la chasse aux putes. Parce que ça te permet de faire des délits de faciès, de faire des contrôles d'identité totalement abusifs. Genre, bonjour, qu'est-ce que vous faites au bois? Est-ce que vous avez jeté une capote sous mon œil? Très bien, montrez-moi votre pièce d'identité. Vous n'en avez pas? Hop, tenez, OQTF, vous dégagez du territoire français. Enfin, là, je te le fais en long story short, mais concrètement, c'est ça. Ils se servent des putes pour taper sur les migrantes. Genre, c'est hors de question que je laisse passer ça. Et donc, pour moi, c'est vraiment... L'intersectionnalité, elle est vraiment de mise. Peu importe le milieu, on doit, c'est une putain d'injonction, mais il faut qu'on se soude.
Est-ce que tu fais de plus en plus face à de la violence sur ton lieu de travail?
Les violences, en fait, elles se manifestent sous différentes formes. Ça va être, pour moi, en fait, ce que je vais prendre comme violence, c'est quand quelqu'un va me dire « Excuse-moi, mais en fait, moi, je veux que t'enlèves la capote ou je veux enlever la capote. » Pour moi, ça, c'est une première forme de violence, c'est la plus minime, on va dire. Après, t'as les personnes qui vont la retirer en loose-dé. Là, ça devient un peu problématique. T'as les personnes qui vont m'insulter alors que ça ne fait pas partie du contrat. Puis après, t'as les personnes qui vont me frapper ou les personnes qui vont juste avoir tellement de pression sur moi que je vais même pas oser dire non, en fait, alors que j'en ai plus du tout envie, que ça se voit. Enfin, et en fait, ça pose une question sur le consentement, que ce soit dans le travail du sexe ou non. Des fois, tu sens bien que ton ou ta partenaire n'est pas réceptif. Donc, c'est le moment où tu arrêtes, que tu t'en vas, enfin, que tu te retires juste. Et donc, ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire violer. Mais en fait, je pense que c'est là où c'est important de faire la distinction entre client et agresseur. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un te viole, c'est plus ton client, c'est genre ce qu'on considérait comme un voleur, parce que là tu ajoutes un i, c'est ton violeur, parce qu'il te paye pas, du coup il reprend l'argent qui est une des parties du consentement dans un accord entre travailleurs et travailleuses du sexe. Et du coup, quand ça t'arrive, en fait tu te dis merde, la première chose que tu te dis c'est en fait mon métier est trop dangereux, il faut que j'arrête. Ensuite tu te remets en question et tu te dis en fait c'est pas moi de me remettre en question, c'est plutôt le fait est que mes conditions de travail sont merdiques, ça a amené les gens à penser qu'ils peuvent me traiter comme ça. Et donc, c'est mort, j'y retourne. Et je vais ouvrir ma gueule, je vais en parler. Parce que quand une infirmière s'est fait agresser sur son lieu de travail, on va pas dire, ah mon Dieu, fermez les hôpitaux. On va dire, ah, on va lui donner plus de sécurité, on va faire en sorte qu'elle ait plus de moyens. Alors que peu importe la profession, on va toujours faire en sorte de d'aider la personne qui va être sujette à ces agressions que blâmer la personne et lui dire « Ah là, il faut changer de métier. »
T'as évoqué les viols. Est-ce que t'as déjà tenté de porter plainte? C'est une question.
Ouais.
Ouais.
Bah, ça s'est arrêté à la case départ, en fait.
Ouais.
On m'a dit « Bah non, c'est pas vrai. » Ou genre, quand je vais pour déposer ma plainte, « Oh, mais de toute façon, regardez comment vous êtes habillé. » Alors que je suis enfin j'ai un passing de mec, comment dire ça? Je me fais mégenrer, on me dit t'es un mec et en même temps on veut pas recevoir ma plainte. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Genre, j'étais en talons et en résille et on me dit bah regarde comment t'es habillé. Et genre, c'est pas la question en fait. Genre, la question c'est prends ma putain de plainte, chaton, ou change de métier. Et donc, ouais, c'était impossible de passer ça. J'ai toujours eu de trop mauvais rapports avec la police qui a toujours refusé de m'écouter.
Est-ce que tu t'es déjà senti majoritaire?
Majoritaire? Non, pardon. Il y a un piège dans la question parce que je vois pas dans, enfin, majoritaire, dans quelle échelle.
Peu importe. La tienne?
Mon échelle? Bah, moi, ça va plutôt être perçu au niveau du travail du sexe. Je pense que l'endroit où je suis majoritaire, c'est quand je suis avec mes collègues, quand on est tout ensemble et tous ensemble dans notre local et que là, on est en non-mixité. Il n'y a pas de personnes qui ne sont pas TDS et du coup, on peut cracher sur la gueule de tous ceux qui se moquent de nous, qu'on peut briser du sucre sur le dos de nos clients. Là, je me sens majoritaire. Je me sens majoritaire quand je suis dans des espaces safe pour moi, c'est-à-dire avec des personnes qui sont... Non, en fait, concrètement, qui sont des personnes qui vivent des oppressions.
Donc c'est rare que tu te sentes majoritaire.
Ouais. Ouais, parce que je me fais trop insulter dans la rue pour ce que je représente, pour me penser comme majoritaire.
Est-ce que tu souhaites entamer une transition de... Je sais pas comment poser la question. Est-ce que tu souhaites entamer une transition de genre? Est-ce que t'as déjà entamé une transition de genre?
Ouais, enfin déjà on sait, mais je pense que là je suis sorti de ma phase de questionnement, c'est-à-dire que je suis un peu plus figé sur mes attentes au niveau de mon corps, de tout ce qui va être l'impact des hormones et éventuellement des chirurgies à venir. Je pense que là j'ai envie de commencer le traitement hormonal et donc j'ai pris rendez-vous avec mon endocrinologue et ce sera au mois de janvier, en début janvier, où j'aurai mes œstrogènes.
Youhou!
Félicitations!
Merci!
Et ma question était très maladroite parce qu'on n'est pas obligé de commencer à prendre des hormones pour être trans. Enfin, c'est pas ça qui te légitime en tant que trans et tu fais ce que tu veux.
On est d'accord.
Voilà, fin du disclaimer.
Non. C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud.
La musique du générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.